sans rentrer encore, sans rentrer maintenant dans la question du débat, hein, de la controverse, mais de se dire finalement peut-être quels sont les points que vous n'avez pas eu le temps d'exposer et qui pourtant participent peut-être des choses à savoir sur ce sujet. Pardon.
Non.
Alors moi j'en voyais deux. Le premier point, je pense qu'il y a un peu une controverse entre ceux qui pensent, comme moi, que finalement tout ça bouge très très vite, et que voilà, l'évolution elle est inéluctable tant que les gens n'ont pas pris conscience. Et puis ceux qui disent, en fait, je pense à des gens du Grand Lyon, Jean-Col Défi sur la mobilité, qui dit bon, finalement on parle de tout ça, mais en fait c'est plus des signaux faibles, et en réalité quand on regarde, la mobilité n'a pas été révolutionnée en fait. Donc premièrement cette question de la vitesse du déploiement, en intégrant aussi un autre facteur qui est le fait que finalement, en même temps que les choses se développent, il y a des réactions qui se développent. Donc c'est par rapport au mouvement de financement par la publicité, il y a eu tout le mouvement des ad-blockers, donc des systèmes en fait qui permettent de bloquer l'apparition des publicités sur Internet. Et donc est-ce que finalement, parallèlement à cette émergence que vous avez décrite, comme je l'ai décrite aussi, en fait, donc par rapport à ce mouvement qui paraît inéluctable, finalement, est-ce qu'on n'a pas zoomé que sur une partie de la réalité, mais qu'il y a une autre réalité qui se fait émergente en parallèle, qui est un mouvement de déconnexion en fait. Voilà, donc ça c'était le deuxième point. Le premier c'était la vitesse de déploiement, le deuxième c'était un peu les réactions par rapport à ces mouvements, et donc notamment l'idée de la déconnexion, des adblocks, etc. Et la troisième idée c'était peut-être, moi ce qui m'a frappé là, en fait, j'ai pas fait de statistiques, hein, des mots dans la presse, mais il me semble que le terme économie collaborative, on n'en voit plus. C'est-à-dire, autant on parle beaucoup de plateformes, on parle moins d'économie collaborative. Et je me demandais s'il n'y avait pas un glissement, est-ce que ça ne dit pas quelque chose? Et enfin, donc ça serait quelle place de l'économie collaborative par rapport à ces plateformes? Est-ce que c'est la même chose, pas les mêmes choses? Donc clarifier les concepts. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il y a manifestement l'émergence de ce qu'on appelle le coopérativisme de plateforme. Donc c'est notamment, alors, ce que j'ai vu, c'est qu'au moment où Twitter a été en vente il y a quelques mois, il y a des gens qui ont proposé en fait que ce soit une coopérative qui rachète Twitter en fait, en disant comme ça les profits que réaliserait Twitter seraient partagés par la communauté des utilisateurs. Donc finalement ça s'est pas fait, mais manifestement il y a eu une certaine ampleur. Donc ça, et par ailleurs il y a des initiatives, donc je crois qu'il y a une initiative à Marseille, je ne sais plus son nom, l'Hôtel du Nord, de gens qui essayent de monter des Airbnb locaux en fait. Donc voilà, c'est coopérativisme de plateforme, donc des plateformes, mais d'une autre manière et éventuellement locale, qui émergeraient. Est-ce que vous pensez qu'elles ont une chance de réussir?
Moi j'ai une question qui est en lien avec ça. C'est finalement le développement du pay per use, et un peu sa généralisation, qui était un peu le propos qu'on avait avec Isabelle. C'est que c'est peut-être juste, mais c'est un facteur d'inégalité. Et ça, c'est une question qu'on n'a absolument pas abordée. C'est disparition de l'État, peut-être, en disant X. Est-ce que l'économie collaborative va suffire à pallier ce rôle de redistributif de l'État, et quid de l'égalité, d'accès à un certain nombre de données, puisque redistribution d'actifs c'est bien, mais encore faut-il en avoir. Et donc comment on gère ça, et est-ce qu'on n'a pas un risque de fracture, pas de la fracture numérique, mais qui était... est-ce qu'on n'a pas un risque de fracture sociale?
Ça, c'est presque un point de débat, me semble-t-il, mais à voir.
C'est parce que c'est fait qu'il y a cette question.
Oui, on aborde
des points de débat. Et d'ailleurs, ça renvoie, pardon, je reprends la parole, parce que j'ai le micro, c'est l'avantage en fait, c'est le commentaire. C'est que dans votre article là, que j'ai cité dans la revue du Millénaire, vous disiez les plateformes assurent quasiment des missions de service public. Voilà, donc si vous pouvez survivre là-dessus, par rapport à ce que vous dites.
Moi, c'est vrai que je voulais juste rebondir sur ce qu'il vient de dire. Effectivement, parce que je me posais un peu la même question. Je me demandais qui. Enfin, vous avez dit en Chine, il y a des développements de plateformes à destination de tous, y compris des plus pauvres ou par là. C'était intéressant, c'était un point que j'aimerais bien qu'on aborde. Et savoir qui sont les usagers de ces plateformes, en fait. Et est-ce qu'on a une idée de l'usage qui en est fait oui, bien sûr qu'on a une idée, parce que c'est le principe de savoir qui les utilise et comment. Et effectivement, le risque de fracture, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, il existe, et comment il est géré. Et j'aimerais bien qu'on creuse les idées que vous avez développées sur ces plateformes-là, à destination d'un public particulier, qui est peut-être pas. Enfin, aujourd'hui, les plateformes que nous, on connaît en France, ne sont clairement pas à destination de ces gens-là. Aujourd'hui, c'est plutôt. Enfin, moi, j'en ai un usage très limité, mais c'est plutôt quand même à destination du jeune urbain qui arrive les moyens. Est-ce qu'il y a autre chose là-dessus? Est-ce que ça va se creuser ou au contraire ça va se rapprocher?
Plus le lien entre plateforme et agriculture que vous n'avez pas.
Ça vous gagne en bas.
Anecdote ou éclairage, si j'ai bien compris, Macron a dit je veux réduire les APL, aidez-moi à trouver des solutions. La suppression de Hitch, est-ce que c'était la bonne réponse? Enfin, justement, ne pas supprimer Hitch, peut-être que c'était la bonne réponse.
Ah, Nicolas Colin, que je citais, il a été un fervent défenseur de Hitch en fait.
Voilà, donc c'est pour dire que c'est pas forcément les jeunes urbains Hitch qui sont
les plus importants. Ils sont pas du même côté de Hitch.
C'est
quoi
de Hitch, non?
Je
ne
sais pas ce que c'est.
Hitch,
c'est une. C'est du Uber pour les jeunes qui n'ont pas de sous.
La nuit,
en sortant de boîte de nuit.
Pour rentrer
bah, il faut avoir
d'accord.
Non, non, parce que c'est mais c'est des jeunes.
C'est des jeunes
qui font service, mais pas très cher.
Non, non, mais c'est pas nécessaire.
C'est deux autres stops, c'est ça. J'ai
déjà pu payer la boîte de nuit.
C'est obligatoire d'aller en boîte de nuit.
Ma voisine m'a expliqué hier soir qu'en fait elle allait louer la voiture d'un de ses copains, mais via Drivey pour avoir l'assurance.
Oui. Ouais.
Parce qu'ils se connaissent en fait. Enfin, voilà, là, c'est juste l'assurance qui est offerte en plus.
Oui. Moi, j'ai été un peu frustré tout à l'heure par une réponse que j'ai trouvée un peu brutale et désespérante sur la disparition du travail salarié avec les plateformes. J'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus. Et puis, avec une réflexion liée aux interventions de ce matin sur les flux logistiques où il y a encore beaucoup de manutentionnaires. Et je me dis finalement que si ces plateformes numériques génèrent une activité logistique ou de transport de personnes à la SNCF, finalement, c'est un peu moins désespérant.
Sans si la logistique est assurée par vous-même dans votre coffre de voiture.
C'est vrai.
C'est
faux.
Ouais. Je vais aller là, votre question.
Moi, je voulais essayer juste de faire un lien entre vos deux présentations. Le premier me posait la question des financements qui sont liés effectivement à infrastructures et autres, ou même la modification de la ville en général. Et la question corollaire sur votre présentation, c'est la fiscalité de ces plateformes. Et comment effectivement on peut mettre en relation ça pour trouver effectivement des sources de financement qui puissent permettre effectivement un développement corrélé et cohérent.
Sur la propriété des données, parce qu'il y a un double mouvement d'open data qui est imposé dans les collectivités, avec certaines qui sont volontaristes ou d'autres qui se posent des questions sur l'open data parce que ça pose quand même des problèmes. Et d'un autre côté, on voit toutes ces plateformes qui deviennent propriétaires de tout un tas d'informations, y compris sur notre vie privée. Donc est-ce qu'à un moment, le législateur, même au niveau européen, ne pourrait pas considérer que ces données doivent être rendues publiques? Est-ce qu'il y a des réflexions là-dessus? Parce qu'on peut même légitimement dire ce ne sont finalement pas des données qui appartiennent à la firme lui-même, mais qui appartiennent aux utilisateurs. Donc il y aurait une légitimité à ce qu'on les contraigne à rendre publiques ces données. Moi, je voulais savoir s'il y avait des choses.
Je le mets dans le coin, je
m'en abandonne.
C'est la question des algorithmes. C'est plus un point effectivement de débat, c'est-à-dire qu'ils ont pris une place on commence à entendre un débat sur la maîtrise ou sur en tout cas la compréhension des algorithmes. On a pu constater qu'ils étaient tout sauf neutres sur l'actualité récente, je pense à la présidentielle américaine. Je le mets, mais sans savoir où ça mène exactement, mais c'est maintenant le biais par lequel l'information ou les traces sont traitées. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et jusqu'où, on l'évoquait tout à l'heure pendant la pause, il y a un lien avec l'intelligence artificielle.
C'est une artificielle.
Je ne sais pas si une explication à débat, c'était sur en fait, le gouffre culturel, parce que finalement, l'exposé qu'on vient d'avoir, j'ai l'impression, en entendant les questions, qu'on comprend rien en fait. C'est-à-dire que les déterminants, la structure, le système,
ça nous est totalement étranger. Enfin, moi, je suis ingénieure, on pourrait dire, ben voilà, je fais l'informatique, machin, mais je ne comprends rien. Tout ça pour dire qu'il y a une question culturelle, c'est-à-dire qu'on a fait le choix culturellement de ne pas s'intéresser, du coup, ça me pose question, est-ce que c'est un choix juste parce qu'on n'a pas vu l'enjeu et que du coup on est passé à côté, est-ce que c'est un vrai choix, et du coup dans quelle position ça nous met, parce que là on voit bien ces grandes puissances qui sont en train de se constituer, parce que, que ça veut dire, enfin voilà.
Est-ce qu'on peut associer le mouvement favorisant l'intérêt particulier, c'est-à-dire la satisfaction des besoins que permet les plateformes, l'opposé à ce qu'était le financement des infrastructures qui servait, l'intérêt général, dans un mouvement évoqué par Sarah, de destruction de la sphère privée par l'acquisition de l'ensemble des données sur l'ensemble de nos activités, pour ainsi qu'il n'y ait plus de cadre privé dans ce monde de plateformes.
D'accord, c'est en fait j'ai satisfaction complète de mes besoins, mais tout le monde est au courant.
Avec toute une correction, c'est pas l'acquisition des données, mais c'est le pillage des données. Et à ce titre-là, moi j'ai une question sur quelle est l'importance de la nationalité du GAFA. Ce sont avant tout des entreprises privées qui veulent avoir effectivement le plus d'informations possible et qui pillent pour ça, y compris en imposant aux autorités publiques de mettre à leur disposition notamment l'ensemble des données, qu'elles soient américaines, patagonaises ou même françaises. Quelle est la différence par rapport au pouvoir public, sachant qu'ils ont l'intention d'intérêt de justice personnel, comme autrefois d'autres grands capitalistes gouvernaient le monde.
On s'arrête là pour le moment. Ouais. Ouais.
Vous avez 5 minutes.
Alors, ce sont 3 pages.
Je suis un peu perdu là. La vie privée. Il y a une question que j'ai pas trop comprise, qui était, on va leur demander de publier ça. C'est-à-dire, je comprends pas trop. C'est-à-dire que Google va être obligé de mettre en ligne l'ensemble de mes requêtes, mes mails et mes activités. C'est donc on voit bien que donc ça c'est pas possible. Et donc Google est effectivement le garant de la protection de la vie privée, des données personnelles qu'il reçoit. Et c'est compliqué comme problème, parce qu'on ne souhaite pas voir ces données publiées, on ne souhaite pas non plus voir ces données transmises au service de renseignement de son propre pays, en tout cas c'est le cas pour beaucoup d'utilisateurs de Google sur la surface de la planète, et donc Google a une procédure pour les États-Unis d'une part, mais pour les États étrangers, d'où des ressortissants utilisent ces services, pour donner accès aux services compétents des différents pays. Enfin bref, c'est en ligne, il y a un certain nombre de choses sans doute qui sont en secret, mais il y a beaucoup de choses qui sont en ligne sur le site de Google, sur le nombre de requêtes qu'ils ont eues, le nombre qu'ils ont satisfaites, etc., etc. Et c'est un sujet hyper sensible, et pour dire les choses de manière un peu crue, je pense que si les gens utilisent Google, globalement, sur la surface de la planète, c'est parce qu'ils ont plus confiance dans Google que dans l'opérateur de leur pays. Donc, attention aux...
Il faut quand même...
Ou qu'ils ne sont pas conscients du danger.
Oui, mais attention, on a une situation avec des opérateurs dominants qui sont massivement utilisés dans l'ensemble du monde. Ne nous trompons pas, ils sont massivement utilisés par la population. Donc, c'est quand même beaucoup, hein. Facebook, c'est 2 milliards d'utilisateurs. Donc, ces gens-là sont utilisés par... Enfin, ces plateformes sont utilisées par aujourd'hui entre 1 et 2 milliards d'utilisateurs pour les grandes plateformes. Donc il ne faut pas non plus se tromper si ces plateformes sont utilisées. Donc on peut dire les gens ne savent pas, etc. On est dans une période de transformation, on ne sait pas trop où on va, c'est vrai. Et on peut imaginer le pire et le meilleur des données. Mais le sujet n'est pas si simple que de dire que ces données doivent retourner, par exemple, à l'utilisateur, ou etc. Supposons que les données, l'ensemble de mes données sur Google, l'ensemble de mon usage de la plateforme de Google, soit sur un disque chez moi, parce que c'est la loi et que Google a à mettre ça sur un disque chez moi. est-ce que c'est mieux ou pas? Mais c'est pas clair que ce soit mieux, parce que si c'est sur un disque chez moi, ben quelqu'un, la police, ou bien quelqu'un de ma famille peut dire, mais tiens, j'aimerais bien voir ce que tu as fait il y a 3 ans, là, montre-moi. Alors que là, c'est chez Google, c'est perdu.
C'est absolument pas le sens de ma question, là, je suis un peu frustrée, je me sens un peu, je trouve ça pas honnête, je suis désolée, je vais agir.
C'est bien.
Rarement, les gens le savent ici, mais là, je transformais vraiment ma question qui était, quel est l'état des réflexions pour permettre à la puissance publique d'avoir un accès à ces données? Ça veut pas dire, j'ai pas dit, est-ce que l'administration pourra lire les mails? La question, c'est par exemple, est-ce que on peut imaginer... J'aimerais juste savoir s'il y a une réflexion là-dessus.
Oui, alors il est clairement défini cet état. Il est clairement défini et il va évoluer. Est-ce qu'on peut demander
à Uber de transmettre à la ville de Paris des informations sur les déplacements de façon à améliorer ses propres services? C'était un petit peu ça le sens de ma question.
Oui, oui, d'accord, donc j'entends. Donc,
il y a les adresses d'air, les portes d'arrivée ou des trucs comme ça.
On parle de l'aménagement du territoire ici. Donc, via Open Data, qu'oblige en fait l'État à prendre les données publiques, y compris les données de l'assurance maladie qui sont agrégées. Donc, la question, c'est pas qu'on ait des données fines, des particuliers, c'est que l'État, la puissance publique, le citoyen, tout à fait, ait un retour de données agrégées sur les flux, sur qui permettrait justement de mieux construire l'aménagement du territoire.
Oui, alors ça c'est donc... D'accord, ok. Donc, j'entends sa question. Alors c'est plus du tout une question de données personnelles, c'est une question de données d'aménagement. Et là je pense qu'on est dans un rapport de force qui, pour l'instant, est en faveur des plateformes. En fait, l'objectif des plateformes est de remplacer une partie des départements de l'administration publique et d'assurer ce travail-là hors sol et de manière principalement algorithmique. Il se trouve qu'au moment où se fait cette transformation, l'administration publique a des problèmes budgétaires terribles. Et donc, elle cède des morceaux aux plateformes. Donc, le rapport de force est en faveur des plateformes pour deux raisons. La maîtrise technologique, d'une part, et d'autre part, leur force financière et la faiblesse financière en face de l'administration publique. Donc, sur un plus long terme, à mon sens, s'établira un équilibre entre effectivement les décisions qui sont celles qui sont des décisions politiques du territoire et qui évitent, je ne sais pas moi, ce qui se passe à Barcelone avec le tourisme de masse et la population qui s'y oppose. Donc on voit bien effectivement la gouvernance hors sol et le mécontentement de la population. Donc on arrivera sûrement à un certain moment à un état d'équilibre. Alors maintenant, les données publiques, c'est...
Est-ce que vous pouvez, peut-être parce que vous avez entendu plusieurs fois qu'il y a une question aussi autour de ça, mais préciser en quoi vous pensez que les plateformes vont se substituer à des pans entiers de l'administration publique? Est-ce que vous pouvez...
Et parce qu'une bonne partie du travail de l'administration publique, c'est de la gestion de données, de la gestion d'informations, et que cette gestion d'informations, elle est en train de changer technologiquement fondamentalement, et que les plateformes ont la maîtrise de ces technologies, pas l'administration publique, et comme je l'ai expliqué... On en a encore pour assez longtemps avant que l'administration publique et les entreprises du vieux monde soient capables d'embaucher des gens du nouveau monde. Juste pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Juste pour exprimer votre... Je suis dans le milieu autoroutier. Donc il y a ce qu'on appelle les FCD aujourd'hui, c'est des floating car data, donc qui sont aujourd'hui effectivement détenus par un certain nombre de sociétés, de plateformes. D'autres plateformes agrègent ces données et aujourd'hui, pour avoir accès à ces données-là, il faut payer. C'est-à-dire que la question de Sarah de dire en gros c'est la gratuité, c'est de dire comment on arrive à avoir ça quelque part, entre parenthèses, gratuitement. Aujourd'hui, c'est pas du tout le sens, c'est ce que vous dites, c'est pas du tout le sens de ce qui se passe. C'est ce qui se passe effectivement, c'est la monétarisation de la donnée qui est un élément important. Et on est obligé aujourd'hui, on n'a pas accès autrement à des données massives qu'en passant par des plateformes qui les agrègent.
Comme ça, j'ai bien compris la question des données. Enfin, excusez-moi, j'aurais pas dû introduire cette question-là à ce moment-là, mais effectivement, il y a la question de Sarah, de savoir comment, quel dialogue, enfin, je veux dire, quel rapport on peut avoir avec ces plateformes pour qu'elles, à leur tour, ouvrent d'une certaine manière, non pas les données personnelles, mais les données qui peuvent être utiles à la puissance publique dans l'exercice de ses missions. Et par ailleurs, il y a toujours ce thème qui revient sur le remplacement de l'administration publique par la plateforme. Et moi, c'est sur ce point-là que je demandais un éclaircissement. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, je ne vois pas où la plateforme remplace l'administration publique. Donc j'aimerais que vous illustriez pour que je comprenne simplement.
Non, mais on imagine facilement ce processus, parce que tout ce qui est dans l'administration publique, tout ce qui relève du traitement de l'information, c'est comme une grande part du travail de l'administration publique, va être numérisé. Et pour une part, basé sur des décisions algorithmiques. Et donc aujourd'hui, les entités qui ont la maîtrise de ces technologies, de ce savoir-faire, c'est les plateformes. Alors après, il y a des pays qui prennent des décisions différentes. Je reviens sur l'open data public, qui est effectivement un mouvement sur lequel on peut avoir des avis assez divergents. C'est intéressant de regarder ce qui se passe en Chine. La Chine a une politique d'open data public pour ses collectivités territoriales et elle ouvre des concours. Et donc il y a un certain nombre de candidats qui concourent pour l'accès aux données publiques. Il faut remplir un cahier des charges, etc., une charge déontologique et blablabla. Et puis il y a un certain nombre de gens qui gagnent le concours et qui sont engagés, qui n'ont pas le droit de divulguer les données et qui vont développer des services sur ces données. Donc une politique très très différente de ce qui se passe chez nous où en fait les données sont ouvertes, accessible à tout le monde et accessible aux citoyens qui n'en a pas grand chose à faire en général. Et elles ont toutes les chances, bien sûr, ces données, d'être beaucoup plus utiles aux grandes plateformes puissantes que à des petites startups qui vont les utiliser aussi. Mais c'est clair qu'une grande plateforme, en récupérant l'ensemble des données publiques de l'ensemble des municipalités des villes d'Europe, a une puissance de feu qui est énorme. Alors, il y avait d'autres questions
Je vous laisse choisir.
Alors, la vitesse de déploiement, donc les choses, est-ce que les transports ont changé, l'utilisation des transports, etc. Je pense que le point qu'il faut voir, c'est que le pouvoir s'est déplacé. Et le pouvoir, il est là où sont les données. La capacité d'agir, elle est là où sont les données. Et donc, si on regarde un peu dans une perspective long terme, on peut dégager des tendances fortes sur ce changement. Je pense que ça, c'est l'aspect le plus important. Même si les choses n'ont concrètement dans la vie de beaucoup de gens, ce qui fait qu'on se rend pas. On utilise des apps sur son téléphone et c'est pratique, mais on se dit qu'on n'a peut-être pas nécessairement beaucoup changé l'organisation de sa vie. Mais par contre, l'organisation du pouvoir, elle, s'est déplacée. Juste pour info, l'administration fiscale française n'arrive pas à traiter ces données, donc je ne sais plus où ils en sont, si elles sont parties aux États-Unis ou pas, mais enfin, les données de la surveillance du territoire sont pour une part gérées par une boîte dont j'ai oublié le nom, mais sans doute certains d'entre vous l'ont remarqué, qui est la boîte de Peter Thiel, qui gère aussi les données de la CIA, donc une partie des données de la surveillance du territoire française sont gérées par une boîte américaine, parce qu'on ne sait pas gérer ces données-là, on n'a pas la capacité en France de gérer ces données-là, même au niveau de l'administration publique, même pour des trucs aussi stratégiques que la surveillance policière et la fiscalité. Donc soyons conscients de l'état de la situation, elle n'est absolument pas favorable à l'administration publique. Il y avait une remarque sur les ingénieurs. Mais les ingénieurs ont été formés dans une formation d'efficacité, de contrôle du monde et de maîtrise du matériau qu'ils ont dans la main. Et je suis frappé parce qu'en fait, je discute avec beaucoup de gens et parfois chez les ingénieurs, je trouve une vraie incompréhension, un vrai désarroi en fait, et qui, plus j'y réfléchis, plus il me semble qu'il est lié au fait que leur formation est celle de la maîtrise totale. Et c'est tout particulièrement vrai sur les enjeux du réchauffement climatique, des ressources, de l'écosystème planétaire, où on voit effectivement des ingénieurs monter au créneau en disant « mais moi je comprends, je suis effectivement un ingénieur informé » à maîtriser la planète, maîtriser les matériaux, et, etc. Donc on voit cette difficulté. Je l'ai dit, l'informatique et le numérique n'ont rien à voir, et nos universités forment des informaticiens, dont certains, par appétence personnelle à côté, etc., et puis par engouement, et cet engouement monte, et puis la jeunesse a effectivement une facilité, vont vers le numérique, mais on forme des informaticiens. Pas des spécialistes du numérique. On commence à avoir des cursus dans le numérique, mais on commence tout juste. L'État ne va pas disparaître, il va peut-être se déplacer. Google State, je paye mes impôts sur Google, qui reverse aux collectivités pour les infrastructures territoriales. L'État ne va pas disparaître. Mais par contre, le pouvoir est en train de se déplacer. Alors les inégalités, c'est alors je pense effectivement les plateformes, c'est intéressant. Si on, à nouveau, je prends Google ou Facebook, c'est ouvert à tout le monde, n'importe où sur la Terre, sans discrimination. C'est censuré aujourd'hui pour des tas de raisons et sur des sujets politiques et à la demande d'États que vous connaissez bien, le nôtre, par exemple. Donc Facebook exerce sur le territoire français, à la demande des autorités françaises, une censure politique assez large. C'est notre demande, c'est notre souhait. Moi, j'ai dit depuis 10 ans que le modèle chinois est le modèle universel. Nous y sommes. Mais c'est un service qui est ouvert. Alors, sur les inégalités, prenons les inégalités de notre pays en dehors de l'aspect plateforme. Elles sont importantes et elles se creusent. Donc la question, c'est de savoir si les plateformes pourraient répondre à une inversion de cette tendance ou à une aggravation de cette tendance. Donc ce qui est clair, c'est que les plateformes sont aujourd'hui, en tout cas, des outils de concentration forte de pouvoir, avant de capitalisation, mais avant tout de pouvoir. Mais pour le coup, là, c'est vraiment une question politique de savoir... De savoir comment elles vont exercer ce pouvoir. Le pouvoir des plateformes est énorme. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pendant l'entrée de l'ouragan sur la Floride, Tesla a augmenté la puissance des voitures, de ses voitures, de son parc, donc des voitures qui appartiennent à des gens qui étaient en Floride. Il a augmenté la puissance de ses voitures pour qu'ils puissent faire plus de kilomètres et sortir de Floride. Et donc, quand je possède une voiture, et donc on a parlé des problèmes de propriété-usage, une voiture Tesla dont je suis propriétaire reste, du point de vue information, dans les mains de Tesla, qui peut, pour une bonne cause, libérer du potentiel pour me permettre de sortir d'un ouragan ou diminuer ce potentiel. Donc le pouvoir des plateformes est absolument extraordinaire. Donc il est rendu public. For good, donc pour le bien qu'elles font à l'humanité, etc., etc. Mais il faut avoir conscience effectivement de ce très fin pouvoir.
En quoi Tesla serait une plateforme ?
Eh bien, Tesla est une plateforme parce que en fait, une plateforme, ça a des utilisateurs du soft. Et Tesla met à jour toutes ses voitures. Tesla contrôle en fait électroniquement ses voitures. Donc c'est pas autrefois j'achetais une voiture, j'en étais propriétaire, je voulais la démonter, enfin ce que je voulais la réparer. Maintenant c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut un peu de soft. Mais par contre Tesla met à jour une voiture, répare une voiture à distance, et donc s'inscrit complètement dans ce d'où cet immense succès et fascination pour Tesla. Après Tesla est parti aussi dans une réinvention du monde, l'énergie, etc.
Je repose la question. Le fait qu'ils maîtrisent leur parc à distance et qu'il y ait une puissance de contrôle à distance, ok, mais en quoi ça en fait une plateforme ? Pour moi, plateforme, je fais un lien avec de l'agrégation.
Oui, alors par exemple, donc, l'ensemble des. L'exemple de l'accident de voiture. Donc quand il y a un accident de voiture, l'administration publique responsable de la sécurité, je ne sais pas quoi, va faire un rapport et noter que Carrefour est mal foutu ou je ne sais pas quoi, ou que la voiture était mal foutue ou je ne sais pas quoi. Dans les Tesla ou dans les voitures automatiques sans conducteur, on va avoir une remontée permanente des informations de l'ensemble du parc des voitures et une redescente permanente. Donc par exemple, on va découvrir que l'algorithme de la voiture a eu un mauvais comportement et a conduit à un accident. Dans les jours qui suivent, l'ensemble du parc est mis à jour. Et donc on a cette interaction, cette remontée de données et cette redescente de données.
Là, il y avait pas mal d'articles sur... de revues de stratégie, en fait, sur comment justement on transforme un modèle traditionnel, pipeline, comme ils disent, en un modèle plateforme. Et donc l'exemple qu'ils donnaient, c'était l'exemple justement de Nike, qui, a priori, est un modèle pipeline très classique au sens où elle produisait des chaussures, des chaussures ou des équipements liés au sport. Et à partir du moment où elle crée des équipements connectés, le fait de les connecter et donc de produire des données et du coup de permettre à d'autres de produire des services avec ces données, la transforme en un modèle plateforme. Et donc la question de la revue stratégie, c'était trouver la plateforme de votre activité, au fait.
Juste un complément de témoignage sur Tesla. Aujourd'hui, quand vous achetez une Tesla, il y a déjà les algorithmes du véhicule autonome. Et quand les législations dans les pays ouvriront la liberté de circulation des voitures à l'autonomie, connexion 4G et 5G, peut-être dans 3 ans, ils activeront sur votre voiture le véhicule autonome. Sauf que moi, je l'ai essayé, c'était en essai, là, c'est en essai en ce moment en France, et ils m'ont lâché l'autonomie, donc j'ai conduit comme ça, pendant 10 minutes, juste pour m'amuser, c'est vraiment impressionnant. Quoi. Mmh. Bien sûr, ils n'avaient pas le droit de le faire, mais... Et donc, ça coûte 100 000 $ et puis il y a 100 000 $ d'options derrière pour avoir tout ça, mais bon, c'est
ouais, mais ça va baisser.
Enfin, alors, d'où la question de la facture aussi, enfin, on parle tout à l'heure.
Oui, mais Tesla c'est cher aujourd'hui, ça c'est... Ça commence sur le segment luxe, c'est comme Airbnb, ça commence sur le segment luxe. Le jour qui sera intéressant, c'est quand Airbnb gérera le logement des gens qui ne sont pas capables de prouver qu'ils peuvent payer un logement et qui sont à la rue chez nous. Pas dans d'autres pays où on ne demande rien, par exemple. Il y a des pays où on ne demande rien quand on loue un appartement. Dans un appartement, on rentre et c'est tout, ce qui n'est pas le cas chez nous. Bref. La déconnexion, moi, j'y crois pas du tout. De même que je crois qu'on peut pas vivre aujourd'hui sans l'électricité et sans l'eau, ce que faisaient nos ancêtres autrefois, je n'y crois pas, parce que je crois qu'on va dépendre fondamentalement de la connexion pour pouvoir se déconnecter. Alors, l'exemple d'AdBlock Plus, qui est un bloqueur de tracking, donc quand vous allez sur un site en ligne, lemonde.fr, par exemple, je prends un exemple. J'ai cité cet exemple un jour à l'Assemblée nationale, il y avait le responsable numérique du Monde qui était là, et j'ai dit, il y a au moins 15 trackers qui sont logués, et il m'a corrigé en direct en me disant, non, plus de 20. Donc, quand vous allez sur un site, par exemple, lemonde.fr, vous connectez, en fait, à la machine du monde.fr, vous chargez une page du monde.fr, qui est en fait un programme, vous voyez une image qui s'affiche à votre écran, en fait c'est un programme qui s'exécute sur votre ordinateur, et ce programme fait d'autres connexions avec d'autres sites, qu'on appelle des sites tiers. Dans ces sites tiers, il y a tout un tas de trackers, des gens qui traquent en fait l'activité pour des tas de raisons publicitaires, donc ça rapporte au monde d'avoir des trackers. Donc, ce que vous faites sur lemonde.fr est connu des Russes, parce qu'ils ont un tracker russe, par exemple, sur leur page au monde. Et donc il y a énormément d'activités là-dessus. Et donc il y a des activités qui mesurent ce que vous faites, et puis qui emploient de la publicité après, ou qui revendent les données. Ce qui est vrai globalement sur toute l'activité que vous avez en ligne, ce qui est très difficile à contrôler en fait. Hein. C'est très difficile en tant qu'individu de contrôler ce qui se passe. Et puis, il y a des gens malins qui ont dit, c'est emmerdant tout ça, on va proposer des bloqueurs. Alors il faut comprendre un truc dans ce monde de l'intermédiation, c'est que c'est le monde de l'intermédiation. Donc, on peut y aller, et la seule arme, c'est la désintermédiation de quelqu'un d'autre. Donc AdBlock Plus, c'est des Allemands, ils sont vachement sympas, ils ont identifié un certain nombre de trackers, on charge ça dans son navigateur, ça bloque les trackers, les publicités, tout ça. Et c'est cool parce qu'ils ont un super, ils sont vachement sympas, et puis ils ont développé un modèle économique qui est que les boîtes qui payent, ben, ils ne bloquent pas. Et donc en fait, ils ont désintermédié en fait, la relation entre les sites, par exemple les journaux qui allaient dire « Ah ben, je vais donner accès à un certain nombre de trackers, donc ça va rapporter de l'argent ben, », AdBlock s'est glissé entre les deux. Il n'y a pas qu'AdBlock, hein, il y en a une série d'autres. Et puis, il a dit ben, « Moi, je vais faire le business entre les deux. Donc, je vais prendre la valeur entre le journal ou d'autres pages et puis les bloqueurs et je vais laisser... » Alors, c'est lui qui définit la norme, en fait, parce que toute personne qui fait de l'intermédiation désintermédie quelqu'un d'autre, essaye de piquer l'accès à quelqu'un d'autre, et puis définit une norme. Donc AdBlock a une norme plutôt sympa de publicité qui ne bouge pas trop, par exemple. Et donc c'est vrai que c'est mieux depuis qu'il y a AdBlock, parce qu'avant il y avait des publicités qui bougeaient beaucoup, on n'arrivait même pas à lire l'article tellement c'était désagréable. Donc ils ont fixé une norme, donc ils ont contribué à ça. Mais à part ça, c'est un beau business. Et donc je ne crois pas à la déconnexion, je ne crois pas... Je suis toujours sceptique sur les outils qu'ils proposent. Par exemple, il y a des outils qui vous proposent le respect de la vie privée et l'absence de tracking de vos activités. Et ces outils super sympas, hein, ils sont utilisés par des parano et puis des gens qui ont vraiment des choses à cacher. Et donc voilà, les services de renseignement, ils vont là où il faut aller, quoi. Donc si vous voulez être traqué par les services de renseignement, utilisez les outils qui protègent le plus vos données. C'est un jeu compliqué, hein. Il n'y a pas de solution simple là-dedans. Ah oui, les plateformes coopératives. Alors les plateformes ont un modèle économique particulier. Leur ambition, c'est le réseau. La majorité des plateformes ne dégagent aucune marge et ne reversent pas de coupons. Donc l'intérêt de posséder des actions d'une boîte qui gère une plateforme, c'est que l'action monte, mais elle ne dégage pas de coupons. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, la logique, il suffit de lire les ténors du domaine, ils disent tous qu'à partir du moment où une société dégage des bénéfices pour ses actionnaires, elle est morte. Elle tombe dans l'économie classique et donc elle arrête d'innover, elle arrête de développer son réseau. Donc Jeff Bezos, par exemple, le patron d'Amazon, il a toujours été très clair là-dessus que le but d'Amazon n'était pas de dégager des bénéfices, ça pouvait même être déficitaire. Son but, c'était de devenir universel et d'acquérir un réseau d'utilisateurs qui était incontournable. Et ils ont absolument tous la même logique. Donc, un collectif qui posséderait une plateforme, faut voir, ça dépend de ce qu'on parle. Alors, on va retourner sur la question plateforme locale, plateforme globale. Donc, je l'ai dit, les plateformes, plus elles sont grosses, plus elles sont efficaces. Et donc, à ce stade, je ne sais pas... C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Il y a des plateformes locales pour l'instant, mais quelle est leur espérance de vie par rapport... Il y en a plein des plateformes locales. Hein. Jusqu'à maintenant, l'histoire, c'est qu'elles meurent toutes, sauf une, qui devient un leader global. Donc, il peut y avoir plusieurs leaders globaux. Là-dessus, je ne sais pas répondre s'il y a de l'avenir dans la gestion locale de données. Je suppose que oui, mais c'est à construire. D'une certaine manière, l'Estonie est une plateforme relativement locale, modeste, d'administration qui gère les 1,5 million d'Estoniens et puis un peu plus.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme...
Les algorithmes. Donc nous allons devenir de plus en plus dépendants de décisions algorithmiques. Les questions de recours par rapport à une décision, donc une partie des décisions de justice américaines sont aujourd'hui basées sur des algorithmes. Les questions de recours vont être compliquées. Il y a eu, à l'époque Obama, il y avait pas mal de rapports sur le site de la Maison Blanche sur les questions d'éthique et de biais dans les décisions. Et donc il y avait cette idée que les algorithmes allaient peut-être permettre de sortir des biais inconscients des fonctionnaires. Le racisme inconscient, le sexisme inconscient, ou que sais-je, et permettre d'avoir des décisions qui étaient plus justes. Et puis il y a eu aussi des rapports qui montraient qu'en fait, les algorithmes qui apprennent aussi les pires biais et travers de la population de laquelle ils apprennent, et potentiellement renforcent ces biais là où l'agent humain aurait peut-être essayé de diminuer le biais. Donc voilà, pour l'instant, on est dans ce débat-là. Maintenant, je crois que ce qu'il faut comprendre sur le long terme, c'est que les algorithmes sont... Je pense qu'on est au bout de la compréhension humaine des algorithmes. Et donc les gros algorithmes qui gèrent les gros systèmes, personne ne les comprend. Ou les algorithmes d'apprentissage, par exemple, ou les algorithmes d'IA, en fait...
Ils vont finir par s'autogénérer, c'est
ça ? Ah, tout un tas de... Pas enfin, dans la science-fiction, mais effectivement, on peut se débarrasser des humains qui coûtent cher, sont indisciplinés, consomment beaucoup. Mais... oui, donc là, on est sur une...
En tout cas, ceux qui sont pas les plus à la société,
oui,
sûrement.
Oui,
non, mais on revient sur... Enfin, on revient sur la fracture dont on parlait tout à l'heure.
Quels sont les États qui... Alors, évidemment, les États-Unis, mais qui ont compris cette évolution, donc on le retrouve et dans les programmes universitaires, et également dans les structures qui permettent à ces entreprises de se développer.
États-Unis, Chine, Russie. Donc les investissements américains, chinois en IA, une espèce de guerre aujourd'hui qui ressemble d'ailleurs à la conquête spatiale du début de la guerre froide, avec des investissements absolument déments. Donc les investissements chinois extraordinaires dans les machines quantiques. Donc ils disent que peut-être qu'ils arriveront à produire une machine demain qui sera plus puissante que l'ensemble des machines qui existent aujourd'hui sur la surface de la Terre. Donc on est dans des potentielles croissances absolument inouïes. Et cette guerre se joue vraiment entre les États-Unis et la Chine et la Russie, avec un certain nombre de pays dynamiques, surtout des pays d'Asie, et une immense absence qui est celle de l'Europe.
Sur ces paroles, en fait, je vous propose qu'on s'arrête là.